Jésus est ressuscité.
Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent la réplique là. Hein. Il est vraiment ressuscité, mes amis. Est-ce que vous le croyez? Sinon, ça sert à rien d'être là ce matin. Faut aller à la pêche. À la croix de Golgotha, sur le mont Golgotha, il y avait trois croix. Vous vous rappelez? Trois croix, une qui portait une inscription rebelle. Il y en avait une qui portait une inscription repentance. Il y en avait une qui portait un écriteau. Rédemption. Mais pour que la rédemption prenne place, il fallait que un des condamnés, et pas n'importe lequel, ressuscite. Et c'est ce que nous allons, c'est ce que nous célébrons ce matin. Nous ne célébrons pas un Dieu mort, mort il y a des milliers d'années. Un Dieu qu'on vénère en souvenir du passé. Mais un Dieu vivant et vrai. Un Dieu vivant et vrai. Un Dieu qui, comme je l'ai dit aux enfants tout à l'heure, ne réside pas dans cette pièce, mais dans nos cœurs. Nous avons le privilège, dans ce 21e siècle, comme ceux qui nous ont précédés, d'avoir une vie avec Jésus, une vie qui nous permet de vivre la vie de Jésus-Christ jour après jour, et comme disait un des réformateurs, de pouvoir porter sa croix chaque jour. Et vous voyez que quand on symbolise Golgotha, on y voit bien les trois croix, mais on y voit aussi le tombeau vide. Si le tombeau était resté fermé, avec Jésus dedans, mes amis, nous serions les plus malheureux des hommes. Les plus malheureux des hommes. Et je me doute même que l'évangile, ou au moins que la nouvelle de Jésus, ait traversé les siècles. Mais les femmes, puis Pierre, puis d'autres sont allés voir. Et Jésus n'était plus dans le tombeau. Un homme dont vous allez oublier le nom, et peu importe, qui s'appelle Nikolaï Ivanovitch Bukharin, était un homme très très puissant. Très très puissant, et il participait à la révolution bolchevique. Vous savez, dans les années 10, 15, 17, la révolution communiste, où le communisme prenait le pas, et où en fait, tout ce qui pouvait avoir de religieux, de chrétiens, devait disparaître. Et on raconte qu'un jour, en 1930, il s'est rendu à Kiev devant un grand auditoire. Un grand auditoire où il devait délivrer un message communiste, où le christianisme, où tout ce qui avait trait aux religions, à Dieu, etc., était éradiqué. Il prononça même des insultes contre Dieu et contre son peuple. Et à la fin de son exposé, fier de lui, il regarda la grande assemblée qui était là et dit « Y a-t-il des questions ?» Des observations. Et finalement, du fond de la salle, s'est levé un petit homme. Il a pris son temps, il a traversé toute la salle. Il est venu devant. Il a pris le micro. Et il s'est adressé à la foule, il a dit, Jésus est ressuscité. Et toute la foule a répondu, il est vraiment ressuscité. Cet homme qui était venu invectiver une foule pensant qu'il les avait gagnés à l'athéisme, avait en face de lui des croyants qui croyaient vraiment que Jésus était ressuscité. Est-ce que nous croyons? On va, dans notre siècle, on est un petit peu, je regardais les enfants tout à l'heure, je lève les cieux, les mains vers le ciel. Alors on leur faisait... Ce qui est intéressant, c'est que quand on va voir un match, quand on va voir quelque chose qui nous plaît, ben mes amis, regarde pas nos mains là. Ouais, vive la France. Ouais, allez France. Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gestes. Et alors, quand vient Dieu, voilà. Mais je trouvais que même les enfants, ils avaient du mal. D'habitude, ils ont moins de mal que nous. La première croix, c'est celle des rebelles. Celle du rebelle. Dans Néhémie chapitre 9, au verset 29, Dieu donne la définition du rebelle. Il dit, tu les as avertis pour qu'ils reviennent à ta loi, mais ils se sont montrés arrogants. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont péché contre tes règles, alors que l'homme qui les met en pratique vit par elles. Et ils se sont montrés rebelles et rétifs. Ils n'ont pas écouté. La rébellion, c'est pas simplement l'opposition à l'ordre établi. C'est de ne pas écouter. De ne pas écouter. Je t'ai bien entendu, mais je n'ai pas écouté. Job, au chapitre 24, verset 13, a dit « Ceux-là ont été rebelles à la lumière, ils ne reconnaissent pas ses voies, ils ne restent pas dans ses sentiers. » Ah ! Combien de fois nous avons besoin du GPS, celui-là ? Et vous savez, quelque chose, c'est que un GPS, faut le mettre à jour. Sinon, vous avez des surprises quand votre GPS, il vous dit « Tournez à droite » et que vous êtes sur la rade de Brest et qu'à droite, c'est la mer. Mais le problème avec les mises à jour, c'est que souvent, on vous dit « mettez le numéro de votre carte bleue ». N'est-ce pas ? Amen, oui, amen. Ainsi soit-il. Mais il y a quelque chose qu'on peut mettre à jour tous les jours, c'est la connaissance de la parole de Dieu. N'est-ce pas ? Trouver chaque jour du temps avec mon Dieu, mon Seigneur, celui à qui aime, qui a donné sa vie pour moi, pour pouvoir écouter. Or, le rebelle, lui, ne le fait pas. Il ne veut pas savoir. Il se moque. Il se moque. Luc 23, 39, l'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injurie en disant, « N'es-tu pas le Christ ? Alors, sauve-toi toi-même. » Et en même temps, sauve-nous. C'est incroyable que finalement on se moque de Dieu. C'est intéressant que finalement on n'ait rien à faire avec Dieu, mais d'un seul coup quand vient l'intérêt. Ah bah tiens, bah écoutez, hein, on ira tous au paradis, hein. Dieu il est bon, il peut pas permettre que j'aille en enfer quand même. Moi je trouve toujours intéressant que quand tout va bien, les gens, ils en ont rien à faire de Dieu. D'un seul coup, quand tout va mal, alors là, on va faire brûler un petit cierge. Hein, on va faire une petite offrande à l'église au cas où. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Ça, c'est de la rébellion, mes amis. C'est de la moquerie. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé. Vous vous rappelez le fils de Pharaon dans le film Vendredi, ceux qui étaient là? Quand la dernière plaie a frappé, qu'est-ce qu'il est venu demander à son presque demi-frère? Allez, bénis-moi! Allez, j'ai dit toutes ces méchancetés, je t'ai fait souffrir, mais écoute, on va pas partir fâché quand même. Hein? Et j'entendais les gens là, genre, oh. J'avais l'impression qu'il y avait des gens, ils découvraient l'histoire. Mais bon, c'était intéressant. Mes amis, ce qu'on sème, on le récolte. Et ce brigand était vraiment moqueur. Il n'était pas simplement rebelle, mais il était moqueur. Un récent sondage donne que 64% des gens en France se disent catholiques. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Express, le dernier numéro, si vous voulez vérifier. 4,5% des gens vont à l'église. 4,5%. Mais j'ai marqué combien croient. Combien vont à l'église au cas où. Et combien, et encore, c'était marqué 4,5% des gens vont à l'église régulièrement une fois par mois. Fidèlement une fois par mois. Moi, j'aime beaucoup la fidélité une fois par mois. Salut chérie, je suis venu te dire bonjour. Ça, oui, ça fait un mois que je n'étais pas là. Oui, ben, je reviens. C'est de la fidélité. Avec Dieu, on fait pareil. Hein. On se moque. On va voir s'il est toujours là. On avait une fille, quand elle était petite, elle aimait bien être dehors. Mais elle aimait pas que maman s'en aille. Alors de temps en temps, elle ouvrait la porte pour savoir si toujours maman était là. Et elle se rassurait en disant, bon, ben, je peux repasser quand je veux dans l'après-midi, tu seras là. Et des fois, avec Dieu, on fait un peu ça, non? Il est toujours dans le temple. Il est toujours dans sa boîte. Si on veut le consulter, il est consultable. Mais j'irai pas passer du bon temps avec lui. Et je vais surtout pas le respecter. C'est un problème, non? Et pourtant, la bonne nouvelle de la résurrection ne change pas notre monde contemporain. Devant nous se trouve toujours le travail, la discipline, les sacrifices à faire. Mais en fait, Pâques nous communique la puissance spirituelle pour accomplir notre tâche. Accepter la discipline et faire les sacrifices nécessaires. La vie chrétienne, c'est pas, je le dis souvent, le club méditerranéen, n'est-ce pas? On sera guéri, on sera béni, on sera délivré, on n'aura aucune maladie, tout ira bien, on sera riche. C'est par beaucoup de souffrances qu'il vous faudra rentrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de souffrances que celui qui me suit prenne sa croix. Vous n'êtes pas plus grand que votre maître. S'ils vous en renient, ils vous renieront. Est-ce que c'est ça qui fait du bruit? C'est ça. Romains chapitre 1, verset 29, ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, d'avidité, de mal. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de dispute, de ruse, de vice, diffamateurs, médisants, ennemis, insolents, orgueilleux, fanfaron, ingénieux pour le mal, rebelles envers leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, insensibles, sans compassion, connaissent le juste décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, non seulement ils les font eux-mêmes, mais ils approuvent ceux qui les pratiquent. Jésus, il devait lire le parisien. Il connaissait notre monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas notre monde autour de nous? N'était-ce pas nous, un peu? Remplis d'envie, de disputes, de ruses, de vices, diffamateurs, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons. C'est ce que nous étions, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai... Parce que nous n'étions pas différents de ces gens-là. Ayant encore des petites réminiscences, des petits restes, hein. Et bien qu'ils connaissent le juste décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ces biens. Le mal est devenu Le bien est devenu mal. Alors il y a une autre croix, celle du brigand repentant. Luc 23, 40 nous dit, mais l'autre le rabroua en disant, n'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il disait à Jésus, souviens-toi de moi. L'attitude n'est plus la même. Oh, il a rien, il peut plus rien faire pour se racheter, le gars. Il a accompli tout ce qui était nécessaire pour finir sur une croix. Et comme Jésus, il a dû être flagellé avant. Comme Jésus, il a dû porter sa croix. Ou au moins la traverse. Parce que c'était la coutume romaine. Et même, une chose qui est intéressante quand on travail, l'histoire, c'est que il ne devait pas être un esclave. Et Jésus n'était pas considéré comme un esclave. Sinon, il aurait été mis dans un autre endroit, où là, les corps restaient pendant des jours. Pendant des jours à mourir. Les oiseaux, les vautours venaient finir par déguster les gens qui étaient sur ces croix. Mais finalement, on a crucifié ces deux brigands, l'un à droite, l'un à gauche. Mais l'un comprend que ce qu'il a amené là, c'est sa faute, c'est pas la faute des autres. Et que finalement, une seule chose peut le sauver. C'est Jésus. La repentance, c'est ce changement de mentalité, d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Moi, je trouve surprenant souvent quand quelqu'un fait quelque chose de mal ou éventuellement quand je commets, que nous ne soyons pas tellement offensés en fait, mais qu'en fait on a été pris. Ce qui fait le plus mal, n'est-ce pas, c'est d'être surpris à faire le mal. Non? Quand on commet une erreur et que quelqu'un est là en disant quand dans un match de foot ou un match de rugby, quelqu'un fait un mauvais geste, il ne se repent pas d'avoir fait un mauvais geste. Certains, on voit des gens à l'hôpital, hein, pour la beauté du sport. On casse des jambes, des bras, des côtes, le nez. On essaye d'étrangler quelqu'un pour la beauté du sport. La repentance, c'est la tristesse. Nous attristons Dieu, mes frères, mes sœurs. Nous disons oui au péché. Quand finalement nous sommes rebelles comme l'autre. Quand finalement nous n'écoutons pas la parole de Dieu, c'est ça. L'aspect de repentance, j'aimerais nous poser la question si vraiment elle nous attriste. Bon, ben si j'ai fait mal, pardon, oh là là. On va pas en faire une, hein. C'est pas ça que Dieu attend. Ce que Dieu attend, c'est que je m'humilie. Que finalement ça me fasse mal. Si la foi est la condition essentielle au salut, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Le premier message de l'évangile, c'est « Repentez-vous et croyez ». Jésus est venu sauver non pas des justes, il n'y en a aucun, dit la Bible, mais des pécheurs qui dans l'humiliation se reconnaissent comme tels. Ils reconnaissaient comme tels, nous méritons d'être sur cette croix. Et il n'a pas demandé à Jésus de descendre de la croix. Il n'a pas demandé une révision de trop tard. Quelqu'un m'a envoyé un mail cette semaine et l'introduction du mail disait ceci. Ne dis pas à Dieu combien ton problème est grand, mais dis à ton problème comment Dieu est grand. Ah, les enfants l'ont chanté, c'est le premier chant, hein. Dieu est grand. Vous savez, on s'entoure. Bon, on entretient nos problèmes. Oh, moi j'ai des problèmes terribles. Oh là là là. Je m'en sortirai jamais, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Oh là là. Au mur des lamentations, on est des experts, hein. Et Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là-dedans? On ne croit pas que Dieu est capable de nous sauver. On ne croit pas que Dieu est capable de nous guérir. On ne croit pas que Dieu est capable de nous sortir de tout ça. Donc finalement, on dit à Dieu, t'occupe pas, hein, comme dit un animateur célèbre, hein, t'inquiète pas, je s'occupe de tout. On peut pas s'occuper de ces choses, c'est Dieu. Dieu, il a dit, confiez-moi vos péchés. Déposez vos péchés à ma croix. C'est moi qui m'en charge. On veut s'occuper de toutes nos affaires, alors que ce sont les affaires de Dieu. Et qu'est-ce qu'on lui laisse, en fait? Rien. Dialogue entre Satan et Jésus. On a imaginé ce dialogue où Jésus va voir Satan va voir Jésus et lui dit je suis en train de rouler tous les habitants de la terre. J'ai plein de ruses et finalement il m'écoute. Alors Jésus, une première fois, de lui demander, et quel prix tu demandes? Non, mais t'inquiète pas, je m'amuse, et en plus ils fabriquent des bombes, ils se détruisent eux-mêmes, et puis ils ont un petit machin dans leur bouche, ça s'appelle la langue, et ils savent bien l'utiliser entre eux, ils s'entretuent, c'est bien. Et Jésus de redemander, quel est le prix? Et Satan de dire, ta vie. Et Jésus de dire, je suis venu pour ça. Donner ma vie pour eux. Donner ma vie. Frères et sœurs, aujourd'hui, si nous avons le privilège de fêter la résurrection de Jésus-Christ, pour ressusciter, il fallait d'abord que Jésus soit mort. Il fallait que Jésus soit mort. Pas vivant, pas assoupi. Pour que le corps soit décroché de la croix, les Romains demandaient la vérification que le mort était effectivement mort. Et il fallait encore une autorisation spéciale pour qu'on mette le condamné dans une tombe. Tout cela a été fait pour Jésus. Mais le troisième jour, le tombeau était vide. Le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés pour embaumer le corps. Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection au moins 3 fois. Mais que personne n'a entendu, parce que personne n'a voulu croire, non pas qu'il ressuscite, mais qu'il meure. C'était pas possible. Et Jésus est mort. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles en habits éclatants, toutes craintives, elles baissèrent le visage sur la terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est réveillé, il est vivant, il est ressuscité. De quelle manière il vous a parlé? Ça vous arrive jamais de dire, ah oui, c'est vrai, on me l'avait dit. Ah oui, oui, je me souviens. Mais il faut que on soit fait taper sur la tête avant. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous annonce toutes ces choses. Elle nous annonce des temps difficiles. Elle nous annonce des moments qui vont pas être simples. Mais on n'entend pas bien. Et on dit à Dieu, on va changer les plans. Le plan que Jésus avait mis en place, c'était un tombeau vide. Un tombeau où on n'allait pas amener des fleurs. Un tombeau qu'on n'allait pas visiter tous les 11 novembre ou tous les 1er novembre. Un tombeau vide qui déplaisait finalement aux Romains. Alors, Luc 23, 43 nous dit, amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La rédemption s'est mise en place. Alors on peut mettre le troisième écriteau, rédemption. Maintenant c'est sûr. Il n'y a plus de doute. Le père du doute, celui qui essaie toujours de nous faire croire autre chose, c'est le diable, n'est-ce pas? Et combien il réussit à rentrer dans nos cœurs? Combien des fois on arrive à être attristé par des choses jusqu'au moment où finalement on se dit, mais Seigneur, pourquoi je me décourage? Je serai un jour avec toi. La rédemption, c'est ce rachat, la libération par le paiement d'une rançon, délivrance de celui qui est en esclavage ou en prison pour dette. Jésus a payé la dette du brigand et la nôtre, et j'ai rajouté, et son paiement a été accepté. La puce n'était pas rayée. Quand il a mis la carte bleue, hein. Carte bleue, vous savez, on a inventé l'argent plastique avec la carte bleue. Avec ça, on compte pas trop. Mais la banque, elle compte. Et à un moment, elle vous dit, votre carte n'est plus acceptée. Amenez de l'argent. Jésus a payé une dette colossale, mes amis. Pour que nous soyons sauvés. C'est ça le message de Pâques. On peut crier au monde, Jésus est vivant. Il a payé la dette. Et rien ne peut nous retenir. Aucune personne, aucune autorité céleste ne peut plus nous empêcher d'aller au ciel. Parce que Jésus est vivant et on peut le célébrer. Nous étions tous esclaves du péché, de la mort, de la loi de Satan. Christ nous a rachetés, libérés sur toute la ligne. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, faveur imméritée, par le moyen de la rédemption, du rachat qui est en Jésus-Christ. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons la rédemption par son sang, et c'est ainsi, et non par de l'argent, que nous avons été rachetés de notre ancienne vie de péché. Christ nous a libérés de la mort, de la puissance de Satan, comme autrefois le sacrifice de l'agneau pascal avait délivré des Israélites de l'ange exterminateur, hein, Exode 12, et du Pharaon. Le Seigneur nous a rachetés de toute iniquité. Le but express de sa vie, c'était de donner sa vie comme rançon. Ah ! Il est bon de se rappeler de temps en temps pourquoi on célèbre Pâques. Pourquoi finalement, le dernier mot, hein, laisser Jésus avoir le dernier mot. Là qui lisent l'anglais, là. Pardonner. C'est ça la croix de Jésus. Pardonner, j'ai payé le prix. Est-ce que vous laissez Jésus avoir le dernier mot dans votre vie? Vous savez, on arrive à tenir des conversations et c'est celui qui parle le dernier, hein, qui remporte la victoire. Le dernier qui a parlé à la croix, c'est Jésus. Et les mots qu'il a prononcés, c'est vous êtes pardonné, j'ai payé le prix. Alors, mes amis, l'apôtre Paul va reprendre bien des années plus tard à la de gens qui ne méritaient pas Jésus, qui confessaient de leur bouche un Jésus qu'ils ne vivaient pas. Un grand désordre. Alors il a passé du temps et du temps à leur rappeler les choses. Il a passé du temps et du temps à rectifier les choses, à les ramener vers Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il dit en concluant dans 1 Corinthiens 15. Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par laquelle vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement c'est pour rien que vous seriez venu à la foi. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu, le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli. Il s'est réveillé le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Enfin, il a apparu plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme un avorton. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. Et c'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul a une attitude de repentance, n'est-ce pas? Pas d'orgueil. Il était aussi un persécuteur de l'Église. Et il aurait pu très bien lui aussi finir sur une croix. Vous savez, pour la petite histoire, quand est-ce que les crucifixions ont arrêté? En 313. En 313, soit plus de 2 siècles après Jésus. 3 siècles après Jésus. Pourquoi? Parce que l'empereur qui faisait... L'empereur de l'époque s'appelait Constantin, et il continuait ce perpétuel sacrifice de tous ceux qui étaient qui se rebellaient contre Dieu, qui se rebellaient contre l'autorité. Et finalement, ce Constantin est venu à Jésus-Christ. Et quand il a commencé à regarder les croix qu'il faisait mettre en place et la croix qui lui était décrite ici, il a dit alors en souvenir de Jésus-Christ, j'arrête de crucifier les gens. Parce que Jésus-Christ s'est crucifié à leur place. Mes amis, n'est-ce pas un merveilleux message de Pâques? D'arrêter de nous crucifier nous-mêmes, de suivre Satan, nous pouvons lui dire « Je suis libre. Arrière de moi, Satan. » Et là, c'est pas, on n'est pas en train de dire ça à Pierre, hein, qui veut faire le changement de Jésus, mais de dire au diable « Jésus a payé le prix. Je suis libre. » Tu n'as plus de pouvoir sur moi. J'aimerais vous poser une question en concluant. J'ai posé une question aux enfants tout à l'heure. Alors je vais en parler. Sur quelle croix êtes-vous? Celle de la rébellion ou celle de la repentance? Pensez-vous que vous méritez le ciel? Ou que vous méritez votre condamnation? Ou est-ce que finalement, Jésus a payé le prix pour vous? Et qu'en fait, vous pouvez vous approcher de cette croix de la rédemption et dire au Seigneur, Seigneur, pardon. Pardon pour mes fautes. Parce que je suis un rebelle quand je ne t'écoute pas. Pardon parce que finalement, j'ai beaucoup de mal à croire en toi. De la rébellion est venue la repentance. De la repentance dépendait la résurrection. La résurrection a produit la rédemption. Il y avait trois croix. Elles portaient trois noms. Rébellion, repentance et rédemption. Mais un seul tombeau vide. Sans celui-ci, la dernière croix n'aurait pas porté son nom. On va prendre quelques instants. Comment on le fait à la fin de chaque culte? Et se mettre devant la croix de la rédemption. Si vous êtes sur la croix de la rébellion, mes amis, je vais descendre. Mais je vais vous demander juste de considérer vos voies pour que Dieu finalement vous donne ce qu'il est venu porter sur cette terre. Et puis si vous êtes sur la croix de la repentance et que vous avez peut-être du mal à croire que Jésus vous a racheté, alors le message d'aujourd'hui c'est que Jésus est ressuscité, que les liens de la mort n'ont pas pu le garder, et qu'aujourd'hui, c'est sûr, vous serez avec Jésus dans le paradis. Merci pour le message de la croix. Merci pour le message de Pâques parce qu'il nous ramène à cette réalité que toi, tu as payé le prix. Que tu es celui qui est venu mourir pour nous, pour nos fautes. Nous étions rebelles. Nous étions hostiles. Nous étions sans citoyenneté. Et tu as fait de nous tes enfants uniquement par ta grâce. Alors Père, quel grand privilège aujourd'hui de savoir que nous pouvons nous repositionner face à la croix de Jésus. Que nous pouvons encore aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, nous tourner vers toi et apprendre de toi de grandes choses. Seigneur, je veux te remettre tous les gens qui sont dans cette salle, les petits, les grands. Tu vois, tout à l'heure, les petits ont chanté. Certains ont dit qu'ils étaient venus ici pour t'adorer. Je m'adresse à eux aussi, s'ils écoutent. Tu nous permets d'être tous ensemble aujourd'hui, que toute la communauté, tous ceux qui viennent régulièrement dans cette salle. Alors je te demande de parler au cœur. Et que si quelqu'un se trouve encore sur la croix de la rébellion, si quelqu'un se trouve encore sur celle de l'orgueil, de la méchanceté, de la haine, qu'aujourd'hui, Seigneur, ton amour le pousse à te demander pardon. Que aujourd'hui ils puissent prendre conscience que toi tu es mort dans les mêmes souffrances, que tu n'as pas résisté mais que tu savais que tu ressusciterais. Alors s'il y a quelqu'un encore aujourd'hui, un petit, un grand, hein, un garçon, une fille, un homme, une femme, quelqu'un qui se trouverait peut-être encore sur cette croix de rebelle, cette croix où il n'écoute pas, cette croix où il se moque de Dieu, mais par principe, je vais à l'église, au cas où. Si c'est votre cas, aujourd'hui, Dieu vous dit, je suis mort et ressuscité pour toi. Et je t'offre la vie. J'ai payé le prix de tes dettes. Si c'est votre cas, mes amis, aujourd'hui, vous levez la main, vous dites, je veux arrêter le combat. Je veux me repentir de mes fautes. Et je veux accepter ce pardon que m'offre Jésus, parce que Jésus est vraiment ressuscité. Y a-t-il quelqu'un qui aujourd'hui aimerait, oui, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui aimerait encore tourner ses yeux vers Christ, oui, que Dieu vous bénisse. Et puis peut-être vous êtes sur la croix de la repentance, mais vous avez du mal à croire. Vous dites, ça fait des mois, des années, mais... Je ne suis pas sûr. Et aujourd'hui, à l'écoute du message, vous dites, mais finalement, pourquoi attendre? La paix de Dieu peut venir dans mon cœur maintenant, je peux être rassuré. Alors si quelqu'un aimerait juste que je prie pour lui ou pour elle parce que il avait encore des doutes et qu'aujourd'hui Dieu a enlevé les doutes, je demande juste de lever la main pour que je puisse prier et l'aider à avoir cette paix que Dieu donne en ce jour de Pâques. Y a-t-il quelqu'un? Oui? Que Dieu vous bénisse. Eh bien, Seigneur Jésus, tu vois ces mains qui sont montées vers toi. Je te demande de toucher leur cœur, toucher les cœurs de ceux qui ont voulu aujourd'hui changer de position de cœur, de ne plus se rebeller, mais d'accepter Jésus-Christ, de marcher dans tes voies et d'accepter ton pardon. Et je veux te prier pour cette sœur qui a levé la main, Seigneur, peut-être qui doutait encore, qui avait du mal peut-être à croire, à être en paix. Seigneur, bénis-la. Merci pour ton message que Jésus est ressuscité aujourd'hui. Merci parce que nous pouvons, tant que tu ne seras pas venu, ça sera notre message. Merci en tout cas parce que tu l'as fait. Merci parce que aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.